À l'origine de la plateforme balancetonjaf.fr, Christophe souhaite briser le silence autour des injustices vécues devant les juges aux affaires familiales. Cette initiative vise à rendre publiques les défaillances de la justice familiale, à dénoncer les décisions perçues comme irresponsables ou partiales et à sensibiliser l'opinion sur les violences judiciaires subies par de nombreux parents. Loin de vouloir désigner une cible ou inciter à la haine, Balance ton Jaf est un mouvement pacifiste qui interpelle les politiques dans l'objectif d'une réforme profonde pour une justice plus équitable, humaine et transparente. Je vous propose tout de suite donc d'écouter l'interview de Christophe à l'origine de l'initiative balancetonjaf.fr. Eh bien bonjour Christophe, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a conduit à lancer l'initiative Balance ton Jaf?
Alors, ce qui a lancé l'initiative, c'est qu'en allant sur les réseaux et en voulant dénoncer ma situation, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'organisme ou d'organe qui recensait et qui permettait de répertorier toutes les expériences vécues et toutes les souffrances que certains divorcés séparés peuvent vivre lors d'un divorce ou d'une séparation face à la justice des affaires familiales.
Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cet engagement dans cette cause ?
L'élément déclencheur, en fait, j'arrive quasiment à 9 ans de divorce. J'ai reçu une dernière condamnation en septembre 2024. Et là, j'ai fait le un retour en arrière, parce que je me suis dit, mais ça va pas continuer comme ça. En fait, je suis victime, en fait, d'un divorce. Hein. Je m'explique sur les réseaux ce que j'ai vécu. Hein. J'ai un divorce dans lequel j'ai été projeté, hein, dans lequel je suis brouillé, mais je me dis, mais au bout de 9 ans, ça va continuer. En fait, ce que veut la justice, là, c'est mon ex, c'est ma ruine financière. Après m'avoir atteint psychologiquement, mais ça va pas s'arrêter, quoi. Donc, je reprends une pension, mais vraiment abusive, par rapport à des enfants de quasiment 25 et 20 ans qui, découvrent travail. Bref, des éléments qui sont masqués à la justice. Je me dis, bon, c'est pas possible, faut que je parle, quoi. Bon, j'utilise pendant 9 ans tous les moyens légaux, avocats, etc. Tout le circuit réglementaire. Mais là, j'allais sur les réseaux. Donc, en décembre dernier, je reprends ma page Facebook. J'avais 2-3 amis sur cette page. Je maîtrise pas tout Facebook ni les réseaux. Et je me dis, bah, tiens, je vais commencer à parler, quoi. Et puis, une première page se ferme, 5000 amis. Je commence à recevoir un nombre de followers. J'ouvre une deuxième page en un mois, boum, 5000 amis d'un coup. J'ouvre une troisième page. Je vais sur TikTok. Une des premières vidéos fait 200 000 vues. Bref. Et j'en compte des gens qui m'appellent. Je suis envahi de messages dans tous les sens. J'en compte des gens qui sont des miroirs, qui vivent la même vie que moi. Et je me dis, bah, effectivement, je suis pas le seul, en fait. Et bien, je me rends compte que je suis pris dans un espèce d'étau dans lequel il est très difficile de s'en sortir. Et on a affaire à une justice qui ne respecte pas la loi ou qui l'interprète par rapport à ce qu'elle veut bien faire. Voilà. Et je rencontre, au début, j'étais parti sur défendre les papas, mais je me rends compte qu'il y a une maman. En fait, c'est une vraie loterie. On ne sait pas à quoi on a affaire. On a un système qui joue avec les papas et les mamans de France dans tous les départements. Il n'y a pas de logique, c'est une loterie. Voilà, c'est une loterie. Donc j'ai rencontré de plus en plus de gens qui étaient dans des divorces plutôt sérieux, ils avaient les mêmes expériences. Et je me suis dit, bah tiens, là, il y a quelque chose à faire, c'est de mettre en lumière les dysfonctionnements de cette justice et puis de répertorier tous les cas et grouper un mouvement et d'interpeller les politiques pour aboutir à une réforme de cette justice aux affaires familiales.
Donc voilà, donc c'est les objectifs principaux de l'initiative Balance ton Jaf, alors.
Voilà, alors c'est Balance ton Jaf, c'est effectivement un nom évocateur qui est extrait de Balance ton Port. Après, il faut lire entre les lignes. C'est pas nommer des magistrats, c'est pas de leur mettre des cils dans le dos, c'est pas de faire un appel à la haine, on n'est pas des gens anti-système. On dit juste, attention, il y a des dysfonctionnements, il y a des vies qui sont en jeu. Au-delà de la ruine parfois financière et la destruction psychologique des parents, il y a aussi les enfants qui sont touchés et des proches, les grands-parents pareil qui souffrent. Mes parents ne voient plus leur petite fille depuis maintenant 2 ans, etc. etc. Donc il y a un vrai problème. Et le souci, c'est que tous ces gens-là me disent, on a interpellé les politiques. Moi, j'ai envoyé 150 courriers, 200 courriers. J'étais voir ma députée. On a tous eu les mêmes actions, on a tous eu les mêmes réponses. Donc je me dis, c'est simple. Là, ils sont tous au courant du problème, donc ils sont responsables, ils ne veulent pas agir. Donc ce qu'on va faire, on va se grouper et plutôt que d'aller voir un par un et avoir la même réponse, hein, parce qu'on a toujours les mêmes courriers, on envoie des blogs, des témoignages et on propose des réformes.
D'accord, il y a un site internet, hein, je crois.
Alors il y a un site internet que j'ai lancé, mais qui va être construit en corrélation avec l'association qui va être montée. Parce que d'un mouvement aujourd'hui, d'un espèce de collectif, on va s'organiser en association et ce site est là pour interpeller, pour récupérer des témoignages, mais aujourd'hui il n'est pas officiel. Donc il aura son, entre guillemets, son caractère officiel lorsque l'association. Alors, Stronjaf sera créé.
Alors, comment les personnes concernées peuvent-elles participer ou bénéficier de votre initiative ?
Alors, c'est une initiative dans laquelle les personnes ne vont pas avoir, entre guillemets, d'aide ou de support dans le cadre de leur divorce ou leur séparation. Il y a des associations à côté qui font leur job, qui sont en support. Nous, c'est de dire, venez nous voir, présentez-nous votre témoignage, votre vécu, votre souffrance, et si vous le souhaitez, participez à des actions et à des manifestations qu'on va construire. La première manifestation qui va avoir lieu, c'est le 7 juin 2025, samedi. On engage la première journée nationale des papas et des mamans maltraités par un système judiciaire, et on voudrait que cette journée-là, fasse écho dans toute la France, sur plusieurs points, et qu'elle se répète tous les mois, de manière à ce que les citoyens se rendent compte qu'ils ont en face d'eux des papas et des mamans et qui s'en sortent pas avec ce système. Quoi. Voilà. Donc c'est la première action. Après, on est en train de travailler d'autres actions pour interpeller les politiques, mais toujours de manière pacifique et dans le calme.
Et d'après toi, quels sont les principaux obstacles juridiques rencontrés par les victimes ?
Les obstacles, c'est le premier obstacle, c'est que les juges ne sont pas responsables de leurs décisions. Donc à partir de là, moi, mon vécu, c'est depuis le début, la loi n'est pas respectée. Hein. Quand on parle de code civil dans le cadre du mariage, ça, c'est pas respecté par les juges. Ensuite, il y a la lenteur du système qui fait que c'est compliqué. Là, je fais appel d'une décision en décembre. J'ai 1600 euros de revenus par mois. Hein, je suis au chômage. On m'impose une pension de 500 euros. Je fais appel, on me renvoie en mars 2026 et je dois payer 2000 euros d'avocat, plus ceci, plus cela. C'est de la folie, en fait. On m'a refusé l'aide juridictionnelle. C'est encore un abroglio. C'est tout un système avec le temps et des procédures qui font que les gens soit sont esselés, s'essoufflent, désespèrent, et d'autres arrivent à dépenser des fortunes dans des procédures judiciaires qui n'ont pas lieu d'être. Moi, je prends mon exemple simple. Hein, j'ai des dépenses, j'ai des entrées. Monsieur le juge, regardez, je peux pas payer 500 euros. En plus, c'est trois personnes à travail. Simple? Non. Pof, allez, mars 2026. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, c'est les cassations. C'est un système que j'appelle un système fermé. C'est un circuit fermé. Vous rentrez dedans, automatiquement, il vous faut un avocat. Parce que si vous y allez seul, comme je l'ai fait, alors là, vous faites broyer. Et parce que c'est l'avocat qui explique au juge, grosso modo, la loi. Je sais pas si on se rend compte de ça, quand même. Parce que certains ne la connaissent pas. Et quand même, vous feriez une saisine au Conseil supérieur de la magistrature, 1500, je crois, saisine en 2024, il y a eu deux juges qui ont été un petit peu, tirés par les oreilles. C'est tout. Donc en fait, c'est un enfer fermé dans lequel vous n'êtes voué qu'à dépenser de l'argent et à compter sur le temps. Voilà, moi, ça fait 9 ans de divorce. C'est pas possible. Une vie, 10 ans, c'est pas possible. En sachant que demain, j'irai certainement en cassation, j'irai certainement devant la CEDH, parce que ça se finit à la CEDH généralement. Quoi. Voilà. Donc c'est des années et des années de perdu. Et pour moi, j'ai pas de futur aujourd'hui. Hein. Mon patrimoine est gelé. Je sais pas ce qui peut m'arriver demain en termes de condamnation. Enfin, on parle de condamnation. Ouais. Et c'est ce système-là, moi, ce que je dis, c'est que la justice des affaires familiales devrait être déjudiciarisée parce qu'on est traité comme des meurtriers, quoi, comme des voleurs. C'est pas possible. On se marie devant un élu de la République et on finit dans un tribunal judiciaire. Enfin, faut voir l'affaire, quoi. C'est pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et vu le nombre de témoignages que je reçois, vu l'engouement qu'il y a par rapport à ce mouvement, je me dis, mais on peut pas laisser les gens souffrir comme ça. C'est pas possible. Moi, j'ai des témoignages, j'ose même pas les raconter. Donc, on a un système qui est fermé sur lui-même. On peut pas s'en sortir. Vous appelez un politique qui vous dit, on conteste pas une décision de justice. Hein, combien même, je disais à Darmanin, je ne demande pas de contester. Je vous demande de regarder ce qui dysfonctionne, monsieur. On est dans un état de droit, en fait. C'est simple. Les lois sont établies par le législateur. Vous avez ensuite un organisme indépendant qui s'appelle la justice. Et cette justice, elle est payée pour appliquer les lois. Tout simplement, elle n'est pas là pour les déformer ou faire ce qu'elle veut. En fonction de la personne, si c'est un homme ou une femme, de sa race, de sa religion, et de le condamner à des... Moi, typiquement, de ma première condamnation, il y a 8 ans, je suis propriétaire d'un appartement que j'ai payé quasiment en anticipé. Hein, j'ai fait des efforts financiers pour pouvoir mettre la famille à l'abri, pour avoir de loyer. Qu'est-ce qu'on me dit ? Vous restez dans le logement et vous payez un loyer d'occupation. Donc là, aujourd'hui, au bout de 9 ans, ça me revient quasiment à payer deux fois mon appartement. Je ne sais pas si vous voyez.
Ah ouais.
Ce n'est que des cas comme ça, en fait. Des gens qui sont qu'on sort de leur maison, la femme reste dedans, puis on dit attendez, vous payez le crédit, vous continuez. Ou l'inverse, c'est des choses complètement abracadabrantes qui n'ont pas de sens, en fait. Sauf le seul sens de faire du mal et de faire souffrir les gens. Mais je vois pas l'intérêt autrement d'avoir autant de personnes mises dans cet état-là, quoi. C'est compliqué. Donc le système judiciaire est à réformer véritablement et profondément. De manière à ce que on arrête ce que j'appelle moi cette pompe à fric. Hein. C'est une pompe à fric. C'est tout simplement, c'est des avocats. bien, qui font en fonction de leurs tarifs, de leurs barèmes, de leurs zones horaires. Faut voir le truc. Hein. C'est, chacun fait ce qu'il veut. Là, on n'est pas chez un notaire avec des tarifs barémés en fonction de ce que vous faites. Non, là, ça va être 300 euros l'heure, 200 euros l'heure. Il y a des gens qui sont à 40 000, 50 000 euros d'avocat parce qu'ils vont de procédure en procédure. Et bah, souvent, même si vous faites appel, la personne en face n'est pas condamnée. Hein. c'est pour votre pomme. Hein. Donc, c'est énormément d'argent, énormément d'énergie et puis des vies qui sont complètement arrêtées. Des vies complètement arrêtées.
Il y a quelque chose qui revient très souvent hein, au fur et à mesure des interviews que je fais sur ce sujet, c'est le nombre de gens qui sont choqués, qui ont la sensation de la double peine lorsque à la fois ils perdent la garde de leurs enfants ou en tout cas qu'ils voient moins leurs enfants et qui derrière reçoivent un jugement indiqué qu'ils sont condamnés à payer.
Oui, c'est une condamnation, ouais. C'est une condamnation. Moi, pour petite histoire, moi, j'ai été trompé, j'ai été quitté, j'ai été battu. J'avais la garde alternée avant la décision du jugement. Et puis, le jugement passe, et là, je reçois un papier chez moi. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. C'est l'inverse. Le juge a dû se tromper. C'est pas moi qui suis parti, c'est pas moi qui ai trompé, c'est pas moi qui ai tapé. J'aurais tapé mon ex-femme, je veux dire, je serais encore en prison. L'ex que j'ai pris, elle a rien eu, hein, pas la loi, totalement. Et je me dis, bah, c'est dingue. Et je regarde le jugement, et ben là, on me dit, bah, vos filles, vous les voyez que 4 jours par mois. Ah oui, pas la douloureuse, mais je comprends pas, elles habitent à 300 mètres de chez moi, y a rien qui empêche qu'on se voit, quoi. Non. C'est chaud. C'est super dur. Donc, bah, ma grande fille est tombée sous coup dans ce qu'on appelle, j'ai découvert ça, le terme aliénation. Donc, ça fait 9 ans que je la vois pas. Et la deuxième, j'avais vu depuis 2 ans, elle est partie dans des contrées, dans des histoires, voilà, de drogue, voilà. Donc je paye des problèmes que je n'ai pas causés. Donc c'est parfois le double, mais la triple et la quadruple peine. Hein. Parce que vous avez des gens aujourd'hui qui se font ruiner financièrement, hein, qui finissent un divorce avec plus rien, après avoir travaillé 20 ou 30 ou 40 ans. Hein.
Est-ce que tu collabores avec des institutions ou des associations pour faire avancer cette cause?
On tente de joindre à nous des associations, mais on a l'impression de se retrouver un peu en concurrence. Il y a aussi des questions aussi d'ego ou de concurrence, parce qu'elle pense qu'on fait la même chose qu'eux. Nous, en fait, on n'est pas là pour aider les gens. On a très bien compris que le système est fait que si on ne s'en sort pas, en fait, on reste dans le circuit fermé. Donc, nous, notre objectif, c'est de prendre ces associations-là avec nous, effectivement, de leur dire, on va pas vous concurrencer, on va pas vous prendre d'adhérents, c'est pas le sujet. On veut juste des témoignages et juste que vous venez grouper avec nous pour grossir les rangs de cette, entre guillemets, dénonciation collective en vue d'arriver à une réforme. Voilà. Mais tant qu'on n'aura pas trouvé des gens qui comprennent notre système et qui sont arc-boutés sur leur position de simple, entre guillemets, association de défense de papa et de maman, parce que souvent c'est papa ou maman, nous on est papa et maman, toute la différence. Donc on sort des fragmentations de la société, ce qui est différent. Hein. Dans le schéma de pensée aujourd'hui des pas mal de Français, on a toujours été habitué à être dans la fragmentation, dans la division. Nous, on essaie de rassembler. Comme je dis, une femme, un homme, de toutes les couleurs, de toutes les religions, je m'en fous. C'est pas le sujet. Notre sujet qui nous préoccupe, c'est la violence qu'on subit, l'acharnement, surtout la justice aux affaires familiales. Voilà. Alors, donc bah, ça va se faire avec ce temps, ça va se faire avec le temps.
Quelle réforme souhaiterais-tu voir mis en place pour améliorer cette situation?
On a toute une liste de points à réformer, à commencer par la formation des juges. Je pense qu'une formation en termes de psychiatrie, de psychologie, ça serait bienvenu, un minimum, parce qu'aujourd'hui, ils ont affaire à des comportements en face d'eux. Moi, j'ai mon cas, on peut pas dire qu'on peut pas voir qu'il y a un souci. C'est leur formation, c'est également leur intégrité et le respect de leur serment. Aujourd'hui, leur serment ne sert pas de, n'est pas force de loi ni force réglementaire. Donc c'est un serment que vous pouvez assermenter sur un journal d'unité où les avocats ils vont s'amonter sur le journal du Picsou. Donc c'est toute cette justice aux affaires familiales et ces juges, même je pense qu'il faut contrôler. Hein. L'indépendance c'est bien, mais l'indépendance c'est bien à partir du moment où vous respectez en fait la loi. Là aujourd'hui, il y a malheureusement dans mon cas précis et d'autres, la loi n'est pas respectée. Et pour se faire entendre, bah, c'est compliqué, hein, parce que c'est procédure sur procédure. Le juge, pendant qu'il a donné sa condamnation, il passe à autre chose. Il y a également la réforme au niveau des avocats. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous êtes avocat sorti d'école, vous faites un choix, soit la magistrature, soit avocat. Et vous pouvez pas revenir en arrière au bout de 10 ans d'exercice d'avocat en disant je rentre dans la magistrature. Parce qu'on sait très bien qu'un avocat qui rentre dans la magistrature, il va pas vraiment faire le boulot pour lequel il est payé, de peur de tirer les foudres de ses nouveaux collègues. Ce qu'on dit aussi, c'est, comme dans pas mal de professions réglementées, comme dans l'assurance, les pharmaciens, etc., c'est un contrôle continu des connaissances. une validation annuelle pour se rendre compte, pour bien savoir si les gens sont, les magistrats et avocats sont bien au fait des lois. C'est d'autres exemples, c'est faciliter l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, quand vous la voulez, enfin, faut être un bac plus 4 ou un bac plus 10. Hein. Faut vraiment, c'est dur comme document, et puis c'est malvenu, puisqu'on vous demande des revenus de l'année antérieure, votre patrimoine, etc. Enfin, c'est complètement biaisé, donc quasiment personne ne peut l'avoir. Réformer également la durée des appels. Un an et demi, deux ans, un appel, c'est pas possible. Deux mois maximum. Pourquoi deux mois? Ça permettra à la cour d'appel, au magistrat de la cour d'appel, de réguler ce que font leurs juges familiales en première instance, etc. Donc c'est un tas de réformes qui sont pas des réformes nées de juristes ni d'avocats, juste des réformes que nous, concernés, avons constaté des manques. Voilà. Donc elle fait plusieurs points, la réforme. Elle fait plusieurs points. Bon, je vais la mettre en ligne sur le site. Mais c'est des réformes qu'on pense de bon sens, quoi, tout simplement. De bon sens.
Et par exemple, la PPL 819 ou encore la généralisation du numéro vert destiné aux femmes battues pour qu'elles soient également accessibles aux hommes, est-ce que c'est aussi des sujets?
Mais ça rentre. La garde alternée, effectivement, de base, quoi. Après, à la marge, effectivement, il peut y avoir des soucis, mais on peut pas dire qu'aujourd'hui, dans 99% des cas, ce soit uniquement madame qui prenne les enfants. Tous les papas ne sont pas des gens violents. C'est pas possible, en fait. C'est de base, ça devrait être ça. On n'a pas séparé les papas, les mamans et puis des enfants. Alors oui, après, des gens qui partent à 400, 500 km. Moi, dans mon cas, j'étais à 300 mètres. 300 mètres, on ne sépare pas un papa en plus non violent. Enfin, il n'y a pas de situation où, comme j'entends dire, dans certains cas, je fais, bon, effectivement, c'est un peu compliqué, mais dans des situations qui me semble neutre, on ne sépare pas, quoi. Parce que là, aujourd'hui, de toute façon, on a 90% là-dedans.
Hein. Ouais, puis les 90%. Conséquences sont terribles aussi pour les enfants, et en particulier pour eux.
Alors, moi, j'ai plus de relation avec mes enfants. Hein. Comme je dis, je suis un ancien papa. Hein. Je peux pas dire autre chose. Hein. Ils ont tué le père que j'étais, donc j'ai plus beaucoup de sentiments. Donc, je me pose quand même la question de comment ils peuvent se construire. Et je pense que ça peut être compliqué. Voilà. Après, j'ai plus d'inquiétude. Hein. Je suis sorti du système, malheureusement. Ils m'ont tué l'amour que j'avais pour mes filles. Et parce qu'ils m'ont mis dans des conditions, de toute façon, c'était improbable. Hein. J'ai eu des pots de plainte contre moi, des insultes, des injures. Enfin bref, je suis passé par tous les niveaux. Je pense que pour les gamins, ça va être compliqué, je pense, à gérer. Ça va être compliqué. Moi, je me suis construit avec mes parents et mes grands-parents. Donc, même si je m'entendais pas trop parfois, de temps en temps, avec mon père ou autre, mais ça reste un papa. Ça reste un père, il est là. On peut discuter, on peut ne pas être d'accord, mais il y a quand même. Enfin, voilà, c'est un couple fait des enfants, et puis ça tient par rapport à un papa et une maman. Hein, ou deux personnes adultes, en tout cas. Enfin, ça joue à deux, quoi.
Comment sensibilises-tu le grand public à cette problématique?
Là, moi, j'ai agi seul sur des réseaux, notamment TikTok ou autre, etc. Donc, j'interpelle et j'en pose des questions. Après, là, l'idée, c'est d'avoir des opérations récurrentes, mensuelles, dans toutes les villes où on aura des référents locaux. Donc, des manifestations, des tracts. Là, j'ai déjà fait 3 manifestations sur Grenoble. L'avant-dernière, j'ai distribué à peu près 1000 tracts, rencontré je ne sais combien de personnes. Donc, les gens, soit sont au courant de l'affaire, soit ne savent pas, mais discutent. Et la seule façon d'avancer, c'est que le grand public soit sensibilisé de manière à agir sur les politiques. Voilà. Et si les politiques ne peuvent pas agir, malheureusement, il va falloir prendre leur place et des sièges à l'Assemblée nationale pour travailler sur la réforme de ces lois. Je vois pas autrement comment ça peut se faire.
Est-ce que tu as rencontré des résistances ou des soutiens inattendus dans cette démarche?
Alors, j'ai rencontré de la résistance par rapport à des associations et des groupes de défense de papa et de maman. Mais j'ai compris après pourquoi. Donc, ça m'a un peu... pas déstabilisé, mais je me suis dit, on est en concurrence, j'ai l'impression, ils n'apprécient pas. Ni la démarche, parce que j'ai une démarche effectivement qui est un peu hors sortie battue. Hein. Je suis pas en train de pleurer ni de pleurnicher. Hein. Je suis en train de dire attention, faut se lever, faut montrer nos têtes calmement, hein, donc, pacifiquement, mais dire non, là il y a un truc qui va pas, quoi. Donc ça dérange un peu parce que les gens ont parfois du mal à bouger ou à agir ou autre. Et après des soutiens attendus. Oui, j'ai plus de soutien, de likes et de gens qui m'appellent. J'ai des retraités, enfin j'ai des gens de Belgique qui m'appellent, des gens de Suisse. J'ai énormément de soutien. Voilà. Ce que j'ai du mal à gérer, par contre, c'est les réponses parfois. Alors, je me fais gronder, me dire ah, vous n'avez pas répondu. Mm-hmm. Non, je peux pas. Je peux pas. Sur un compte TikTok, je vais être à 150, 200 messages en attente. Sur Facebook, je compte même plus. Donc je dis aux gens, quand vous avez mon numéro de téléphone, privilégiez mon téléphone ou mon mail perso parce que je peux pas. Je suis inondé. Voilà. Mm-hmm. Donc là, on. Mais du soutien, ouais, autrement je serais pas là. je serais pas là parce que c'est, il y a vraiment eu des gens super sympas. Bah, j'ai, dans mon avant-dernière manifestation, là, sur le pont à Grenoble, le pont de l'Isère, j'ai récupéré à peu près 120 euros. J'avais fait une petite cagnotte, ce qui m'a permis de payer mes pancartes, mes flyers, etc. Les gens m'ont apporté à manger, j'ai du café, du chocolat. Non, franchement, super. Non, les gens sont accueillants. Les gens sont accueillants, les Français sont accueillants. Enfin, déjà, il n'y a pas de. Après, c'est comme dans différents domaines. Bah, on a affaire à des blocages et le premier blocage, autant je dis les juges, sont, je pense, un peu responsables, mais le premier responsable, c'est le législateur. C'est lui qui fait les lois. Donc, à partir du moment où le législateur est parfaitement au courant de ce qui se passe, hein, parce que là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un seul député qui soit pas au courant. Là, il y a un problème quand même. Là, il y a un problème. Ça veut dire qu'on nous confisque notre démocratie et notre justice. Et on le voit aujourd'hui dans d'autres domaines, comme dans la délinquance ou le narcotrafic, ils sont capables de réformer des lois, d'aller construire des prisons en l'espèce de 6 mois et de passer des trucs rapides. Donc pourquoi laisser un grand nombre de Français dans la misère? Parce que si on fait le nombre de divorces qu'il y a, juste divorces, hein, par an depuis 20 ans, 150 000 à peu près fois 20 ans, vous voyez ce que ça donne. Plus les dégâts qu'il y a autour. Parce que j'ai même des enfants qui m'appellent, victimes. Victime de cette injustice. Hein. Le dernier, c'est un gamin de 20 ans là qui m'a interpellé. Bah, je voulais lui demander le numéro de son père, il m'a dit bah non, mon père il en est mort. Il s'est suicidé. Voilà. Pareil, on estime à 1300 suicides par an d'hommes. Ouais. Mais les chiffres sont cachés. On ne parle pas des gens, des suicides à petit feu, hein, des gens qui tombent dans l'alcool ou la drogue. Moi, j'ai deux personnes dans mon entourage qui ont été touchées. Un tir à l'arme de poing et l'autre avec une corde. Donc, il y a de la casse. Hein. Et j'ai l'impression que, comme dans tout, entre guillemets, je ne sais pas, un scandale d'État, mais quasiment, c'est couvert. Ça fait trop longtemps que ça dure. Les politiques sont vraiment au courant de ce qui s'est passé et je pense qu'ils ont vraiment du mal à mettre le nez dedans.
Et moi, je leur dirais. Quelle en est la raison, d'après toi? Des raisons économiques, peut-être?
Il y a des raisons de responsabilité, parce que si les juges ne sont pas responsables, les politiques sont responsables. Mm-hmm. Parce que le jour où on va découvrir qu'il y a un député, par exemple, qui a reçu 40 courriers d'un type qui s'est mis la corde autour du cou, ouais, je suis désolé, il est responsable. Hein, c'est un politique, il a été averti. Hein, et mais à chaque fois, ben, c'est ça dans tous les domaines en France. Hein, c'est ça dans tous les domaines. Hein. Là, on vient vous parler du narcotrafic, on découvre, bah non, ça fait 15 ans que ça existe. Hein. On vient vous parler de trucs, mais non, mais ça vient pas d'un coup, cette histoire-là. Et après, bah, effectivement, ils ont en face d'eux des mouvements qui se montent et ils se disent, ah bah ouais, bah tiens, oh, bah, on a dû s'occuper avant. Bah oui, un problème quand il vient, un problème, faut traiter tout de suite. Hein. Autrement, bah, il suffit d'une, deux, trois, quatre personnes qui disent, bah non, bah, on peut plus, quoi. On peut plus. C'est de la paresse, c'est de l'aveuglement, c'est de l'autisme, c'est ce qu'on veut, mais c'est pas sérieux. Certains à qui j'ai écrit, 150 courriers à peu près, pas une seule réponse. J'ai écrit au Conseil constitutionnel, j'ai écrit au Sénat, j'ai écrit à l'Assemblée. Pas une réponse. Oui, oui, on vous écoute. Oui, oui, on prend en compte. Oui, on envoie à l'autre la patate chaude. Ils se la balancent. J'ai écrit au ministre de l'égalité des hommes et des femmes, là, pareil. Ah bah oui, je passe à monsieur Darmanin. Darmanin, c'est Retailleau. Retailleau, c'est Darmanin. C'est simple. Qu'ils ouvrent une commission. Monsieur Macron, il veut lancer une espèce de journée, enfin, de concertation par rapport aux horaires scolaires. Je lui ai écrit, je lui ai dit, mais c'est insignifiant par rapport, enfin, c'est une piqûre de moustique sur le cul d'un éléphant, votre truc, là. Résolver les vrais problèmes. Les pauvres fous, ils ont des horaires compliqués dans les écoles. Ah bah oui, mais ceux qui passent dans les divorces, les gamins, vous pensez que c'est pas plus compliqué pour eux?
Quels sont les projets futurs pour Balance ton JAF? C'est internet, association, c'est ça?
Alors, le projet futur le plus rapide, c'est le dépôt de l'association, effectivement. Le site, après, il est là, il va être réaménagé, il va être boosté, etc. Mais le premier step, c'est effectivement l'association. Parce qu'en termes d'association, on n'est pas un individu, on est un groupe, et on a plus de pouvoir d'interpeller des organismes nationaux et internationaux.
Et comment tu envisages l'évolution de cette lutte dans les années à venir en France?
Ben jouer sur les prochaines législatives. On a ces années-là là, pour arriver jusqu'aux législatives, se construire, être vu par les partis politiques. Pour ceux qui en font partie, peut-être prendre la cause et taper dans ces partis. Hein, je fais ça comme ça, parce que je suis pas droite, je suis pas de gauche, je suis pas du centre, je rentre pas là-dedans. Par contre, le seul moyen que je vois, parce que ça fait comme des années que ça dure, hein, le seul moyen, c'est d'avoir un siège à l'Assemblée nationale et d'entrer à la commission des lois ou des familles. Sans ça, ça ne passera pas. Parce qu'aujourd'hui, on voit certains députés qui agissent, mais alors, il faut pas se mouiller. Et justement, ce qui fait peur, c'est que quand il faut pas se mouiller, c'est qu'il y a un problème en fait. C'est que là il y a un souci, parce que ça pourrait être simple de régler l'histoire en fait, très simple, très très simple, mais là ça a tellement duré, il y a tellement de cas dans les placards qu'ils avancent vraiment à tâtons, hein. Alors, il y en a une ou deux qui en parlent, ça arrive de temps en temps, journal officiel, on va mettre le point à l'Assemblée, non. Plutôt que de s'occuper des affaires extérieures, moi j'ai occupé vous des affaires intérieures de la France, hein, et puis des Français, hein. Ça pourrait être beaucoup plus simple, hein, tout en sachant que les divorcés séparés, c'est une masse électorale qui n'est pas neutre.
Oui, ça commence à représenter énormément de monde. En effet.
Ah bah là, ça commence à monter, hein. Ah oui, oui, ah oui. Parce que vous avez divorcé, et c'est pareil, hein, c'est pareil, je ne rentre pas dans le nom des divorces, hein. Ouais. Mais c'est pareil, hein, ça passe au JAF quand même. Hein.
Ouais.
En plus, après, là, ce qui m'a fait le plus mal au cœur, et là où je dis, bah, je, vous pouvez me rejoindre, mais moi, je ne peux pas parler de ça, j'ai découvert l'ASE.
Oui.
Ouais, alors là, même si je suis du Romal, comme je dis, là, psychologiquement, j'ai les histoires qu'on m'a racontées, je fais non, je peux pas. Venez dans le groupe, venez en parler. Mais moi, j'ai découvert ça il y a un mois ou deux. J'avais une petite dame qui est venue vers moi, j'étais devant le tribunal judiciaire de Grenoble, habillée en Guantanamo pour ma manifestation, avec mon pleurant, etc. Elle dit, j'étais désenfanté, j'ai dit, qu'est-ce que vous me racontez? Bah, mon fils, c'est pupille de la nation. Je dis, comment c'est possible? On me l'a retiré. Mmh. Bah, j'ai dit, vous êtes devant moi, non? Puis il y avait le papa et la maman derrière, bah oui, on est là, mais les pupilles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, j'ai rencontré deux, trois personnes spécialisées là-dedans qui m'ont raconté l'histoire. Je fais, ah oui, d'accord. Wow, là, c'est costaud. Là, je suis pas taillé pour. Faut vraiment, j'ai regardé les vidéos qui passaient là sur le sujet. Hein. Avec les histoires de placement, de viol, de machin, de pop. Ça, c'est dur. Voilà. Donc, moi, je travaille sur la partie juge aux affaires familiales. Est-ce que j'ai aux autres? Parce que ça peut se rejoindre. Venez monter dans le mouvement, mais en aucun cas j'irai mettre le thermomètre dans ce truc-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Trop dur. Trop dur. Et ça se passe en France. Hein. Moi, j'ai appelé ça de la. J'ai fait une petite vidéo et j'ai dit, j'ai découvert qu'en France, la traite existait. La monétisation des enfants existait. Quoi. Donc, effectivement, j'ai eu pas mal de vues, etc. Mais je m'arrête là. Quoi. Effectivement, c'est un gros business. Hein. Un très gros business.
Je tâcherai de poursuivre cette série en m'intéressant un petit peu au fonctionnement des œufs aussi. Ouais.
Mm-hmm. Ah oui, je pense. Ouais. Là, il y a quelque chose à faire. Hein. Et les mouvements montent. Hein. Il y a un avocat, je crois, qui a déjà attaqué deux ou trois départements, là. Monsieur Maître Hamas ou quelque chose comme ça. Mais non, ça commence à monter aussi, ça, bah, forcément. Hein. Les gens qui se font arracher leurs enfants, c'est dur. Bon, après, je dis pas que je suis pas juge hein, de toutes les conditions, mais si les gens, je me dis, montent au créneau, s'expriment comme je le fais moi, parce que c'est pas du tout mon boulot, hein, je découvre tous les réseaux depuis décembre, hein. À partir du moment où des personnes commencent à s'exprimer, de tous les milieux sociaux, faut peut-être se poser la question quand même. Hein, peut-être se poser la question.
Eh ben, merci beaucoup, Christophe, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. À l'instant, c'était l'interview de Christophe à l'origine de l'initiative Balance ton JAF, un échange sans tabou pour mieux comprendre une colère légitime qui s'exprime dans le calme, mais avec détermination. Un témoignage à écouter et à faire circuler largement dans le cadre d'une mobilisation collective pour une justice familiale plus juste et plus humaine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur balancetonjaf.fr, un espace de témoignage, d'analyse et d'action citoyenne.